On va tourner nos regards dans la parole de Dieu et par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière lors du baptême, plusieurs m'ont demandé comment on fait pour savoir qu'on est né de nouveau. C'est intéressant de se poser la question, comment on fait pour savoir qu'on est né de nouveau? On sait que dans Jean chapitre 3, il y a un religieux qui s'appelait Nicodème, qui de nuit est allé voir Jésus pour lui poser certaines questions, et Jésus lui a dit, « Écoute, Nicodème, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème a dit, « Mais Seigneur, comment puis-je faire à l'âge que j'ai, comment puis-je faire? Je ne peux quand même pas rentrer dans le ventre de ma mère et naître une seconde fois. » Et Jésus lui a dit, « À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné, Nicodème, que je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau. » Et il y a trois signes extérieurs qui nous démontrent qu'on est passé par cette nouvelle naissance, qu'on ne vit pas une religion. Et c'est l'apôtre Jean qui a eu ce grand fardeau de pouvoir nous l'expliquer dans la première épître de Jean. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un citoyen céleste et Dieu a mis sur vous des taches de naissance indélébiles. Et ces marques sont celles de celui qui est né de nouveau. Et si vous ne retrouvez pas ces taches de naissance en vous, si vous ne pouvez pas voir ces marques, vous pouvez vous demander si vous êtes vraiment né d'en haut, si vous êtes vraiment un citoyen céleste. Tournez avec moi dans la première épître de Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Verset 4. On va prier avant de débuter ce message. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce, Seigneur, tu nous as sauvés, tu t'es révélé dans nos vies. Et Seigneur, tu as fait de nous des gens qui sont passés des ténèbres à la lumière. Tu as fait de nous, Seigneur, des héritiers d'un nouveau royaume. Et Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, de savoir que nous sommes maintenant des citoyens d'en haut. Et pour devenir des citoyens d'en haut, nous devons naître d'en haut. Et Seigneur, nous te prions ce matin que tous et chacun, nous puissions ouvrir nos cœurs, laisser parler ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que nous puissions tous avoir la certitude, lorsque nous quitterons ce lieu, que nous sommes tous nés d'en haut, nés de nouveau. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'apôtre Jean, Seigneur, qui nous donne cet enseignement ce matin. Merci aussi parce que Jésus l'a d'abord donné dans les Évangiles. Et Seigneur, nous voulons que cette parole, qui est tranchante comme une épée, un double tranchant, puisse vraiment, Seigneur, trouver sa place dans nos cœurs et éliminer ce qui doit être éliminé. Et Seigneur, nous remplir, Seigneur, de ta parole. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 4. Jean chapitre 2, verset 4. Pourquoi je vous donne, c'est que je vais essayer de ne pas faire d'ouvrir de parenthèse ce matin parce que l'heure passe tellement vite. Pourquoi? Parce qu'on a eu trois témoignages la semaine passée. Un témoignage, entre autres, d'un jeune garçon qui est né dans l'Église. Qui est né dans l'Église et qui a pensé au fil des années qu'il était né de nouveau. Et qui a réalisé finalement par son comportement qu'il n'avait pas la victoire sur le péché. Qu'il n'avait pas la certitude qu'il était sauvé. Et j'ai trouvé que son témoignage était tellement bien que je lui ai demandé, dans l'intimité de notre cours de base, si c'est lui qui avait écrit son témoignage, s'il n'avait pas reçu l'aide de quelqu'un, parce que c'était tellement clair qu'il avait saisi qu'est-ce que c'était la nouvelle naissance. Et il a témoigné que maintenant, il y avait un changement dans sa vie, il avait la victoire sur le péché. On a entendu les deux autres témoignages aussi, des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont intégré l'Église locale, qui sont devenus des membres à part entière de l'Église locale, qui ont vécu dans le monde, qui ont vécu toutes sortes de blessures, et qui, encore une fois, dans leur témoignage, ont partagé comment le Seigneur Jésus avait transformé leur cœur, leur avait donné un nouveau cœur, et comment le Seigneur Jésus leur avait donné aussi une nouvelle espérance, mais aussi une nouvelle façon de vivre en lui. Et ce matin, l'apôtre Paul, il est tranchant, mais moi j'ai toujours pensé que les épîtres, en fait, c'est la continuité théologique des quatre évangiles. Donc Jésus n'a pas pris le temps de s'investir en tant que théologien. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous donner exactement ce que nous avions besoin pour trouver notre salut en lui. Et les épîtres vont développer l'enseignement de Jésus-Christ. Et ici, eh bien, l'apôtre Jean va nous donner trois signes qui confirment que nous sommes nés de nouveau ou pas. Et il dit au verset 4 ici, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Jean n'y va pas avec le dos de la cuillère ici. Il dit, « Si vous dites que vous le connaissez et que vous ne gardez pas ses commandements, alors vous n'êtes qu'un menteur. » Regardez maintenant ce qu'il dit au verset 6. « Car celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. » Allez maintenant au verset 9. « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, déteste son frère, est encore dans les ténèbres. » Avez-vous remarqué comment commence chacun de ces trois versets? « Celui qui dit, celui qui dit, celui qui dit. » C'est une chose de parler de religion, nous dit l'apôtre Jean, mais ça en est une autre d'avoir la foi qui sauve. Il y a beaucoup de gens dans nos milieux chrétiens qui parlent de religion et de foi, et pour qui la réalité est tout autre. J'ai entendu parler d'une infirmière qui allait trouver le psychiatre dans son bureau pour lui dire que dans la salle d'attente, il y avait quelqu'un qui voulait le voir. Et ce quelqu'un, il disait qu'il était invisible. Alors le psychiatre dit à l'infirmière, « Bien, allez le trouver et dites-lui que nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est invisible. » Ce que j'ai amené par cette illustration, c'est que les gens ce que les gens disent souvent ne correspond pas toujours à la vérité. Et c'est sûrement le cas lorsqu'on aborde la question de la nouvelle naissance. Quels sont les signes extérieurs de la nouvelle naissance? Ces trois versets qui commencent par celui qui dit introduisent une caractéristique ou un signe extérieur de la nouvelle naissance. J'aimerais examiner avec vous ces signes de la nouvelle naissance qui définissent ce qu'est un vrai chrétien. Et je le fais ce matin parce que je suis votre pasteur et que je suis conscient que quand je vais rencontrer le Seigneur, je serai doublement redevable de l'enseignement que je vous aurai donné. Et pour moi, c'est important que vous ayez cette certitude dans votre cœur que ce n'est pas simplement parce que vous avez levé la main que vous êtes sauvé, mais parce que vous êtes passé par une nouvelle naissance. N'importe qui peut faire lever la main à quelqu'un quand il y a un pistolet dans les mains, une carabine. N'importe qui peut faire lever les mains. Mais ce qui est important, c'est est-ce que notre cœur a été changé? Est-ce que le Seigneur Jésus nous a visités? Est-ce qu'on l'a rencontré? Est-ce qu'on l'a rencontré de façon peut-être pas spectaculaire? Peut-être que ça n'a pas paru aux yeux des gens. Mais simplement le fait de rencontrer Jésus bouleverse votre vie. C'est une rencontre mémorable. Si vous rencontreriez la reine d'Angleterre, c'est rien à côté de la rencontre que vous auriez faite un jour avec la personne de Jésus-Christ. C'est une rencontre non seulement mémorable, c'est une rencontre qui est miraculeuse. Et la reine d'Angleterre, elle ne peut faire aucun miracle. Le roi des Belges, il ne peut faire aucun miracle. Mais lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il y a un miracle qui se passe. On passe des ténèbres à la lumière. On change de vie. Et là, il y a une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie, ce n'est plus nous qui la vivons, c'est Christ qui habite en nous qui la vit. Amen. C'est important ce matin. Je vais examiner avec vous encore une fois ces signes de la nouvelle naissance qui définissent ce qu'est un vrai chrétien. Et le premier signe, c'est qu'un chrétien qui est né de nouveau se soumet à la Seigneurie de Jésus-Christ. Un chrétien qui est né de nouveau se soumet à la Seigneurie de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit au verset 3 et 4. « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Comment nous savons que nous avons rencontré Jésus-Christ? Comment nous savons que nous avons connu Jésus-Christ? Parce que nous gardons ses commandements. » Celui qui dit « Je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Personne ne peut être sauvé sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Je vais vous donner deux versets. Il est écrit dans Actes chapitre 16, verset 31. Il ne dit pas « Crois au Sauveur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche, pas le Sauveur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous ne recevez pas d'abord Christ comme Sauveur et quelque temps après comme Seigneur. Vous le recevez en même temps comme Seigneur et comme Sauveur. Et si vous dites que Christ est votre Seigneur et que vous ne gardez pas sa parole, vous contredisez sa parole. Jésus lui-même l'a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Le mot « Seigneur » signifie « Maître » et il a parfaitement le droit de nous faire connaître ses exigences ou, si vous préférez, ses commandements. Il est en droit de nous faire connaître les règles pour faire partie de son royaume et se maintenir dans son royaume. Je me souviendrai, là je vais ouvrir une parenthèse, mais je vais être assez rapide. Je me souviendrai toujours du témoignage de notre frère Paolo, qui combattait la boisson, qui était en thérapie, et qui voyait les gens qui partaient le vendredi soir et qui revenaient le dimanche parce qu'ils passaient la semaine dans ce centre de thérapie, et qui revenaient le dimanche complètement bourrés, complètement pétés. Et notre frère, qui venait de prendre une décision pour le Seigneur, avait accepté d'aller en thérapie. Pourquoi? Pour en être délivré. Mais le Saint-Esprit l'éclairait. Il lisait la parole et le Saint-Esprit l'éclairait. Et le matin, avant de rendre son témoignage, il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Et moi, quand un nouveau baptisé m'a dit, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ça me fait toujours peur. Mais j'ai dit, écoute, je te fais confiance. Il dit, non, ça ne sera pas long, je te fais confiance. Lorsqu'il a vu les gens qui rentraient, il y en a, ça faisait des mois qui allaient dans ce centre de thérapie, passaient la semaine, ressortaient le vendredi soir, revenaient le dimanche, complètement bourrés. Il s'est dit, je ne m'en sortirai jamais. Jamais. Et Paolo, il essayait de rester à l'intérieur pour ne pas sortir, pour ne pas succomber. Il a lu la parole et il a compris une chose, que beaucoup de gens, après des années de vie chrétienne, ne comprennent pas qu'ils sont toujours dans le combat du péché. J'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais je ne l'ai jamais accepté comme Seigneur. Il s'est mis à genoux et il a dit, « Seigneur Jésus, je te remets maintenant ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, délivre-moi de la boisson. » Sa femme est là pour en témoigner ce matin. Ça a été terminé. Terminé. Je suis déjà allé acheter de la pizza avec mon frère Paolo et le monsieur, parce qu'on avait commandé une dizaine de pizzas, il nous a fait un cadeau, il nous a donné deux bouteilles de vin. J'ai dit, « Paolo, tu veux transporter les pizzas ou les bouteilles de vin? » J'ai donné les deux bouteilles de vin. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas délivré, il dit, « Non, 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 juste tenir les bouteilles. Non, je peux tomber. » Pas de problème, vous allez chez lui, il peut même vous verser du vin. Il va avoir une bière sans alcool, mais il va vous servir du vin. Il est délivré. C'est un des miracles de la nouvelle naissance. Et c'est un des signes extérieurs de la nouvelle naissance. Christ, non seulement reçoit le pardon de nos péchés, mais il nous a délivrés de la puissance du péché. C'est pas moi qui le dis, ce sont les épîtres qui l'ont dit. Et chacun des apôtres prend plaisir à le dire. Vous êtes délivrés du péché. Si Jésus-Christ est votre maître, si Jésus-Christ est votre Seigneur, ça en est terminé avec l'esclavage du péché. Maintenant, je ne veux pas faire peur à personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas possible que vous ne succombiez pas à la tentation, que vous ne pécherez jamais. Je ne suis pas en train de dire ça, on va le voir un peu plus loin. Mais vous êtes délivrés. Écoutez, c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de changement avant et après avoir rencontré Jésus-Christ, bien, l'Évangile, c'est un roman comme n'importe quel roman. Hein? Jésus vient, il fait la différence. Hein? Il vient bouleverser nos vies. Il vient vous dire, écoute, par tes propres forces, tu ne seras jamais capable. Je puis tout par celui qui se fortifie. Amen. Permettez-moi de vous poser une question ce matin. Êtes-vous né de nouveau? En d'autres mots, êtes-vous certain d'être né de nouveau? Vous dites, oui, je suis né de nouveau. Est-ce que vous gardez alors ces commandements? Vous dites, eh bien, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que je garde ces commandements. Alors Jean, et non pas moi, mais Jean, dit, vous êtes un menteur ce matin. Car celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous devez être parfait si vous voulez aller au ciel? Pas du tout. Que veut dire alors Jean lorsqu'il dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas mes commandements, est un menteur? Le mot important dans ce verset, c'est le mot garder, qui signifie garder comme vous le feriez si vous deviez garder un trésor. Si vous deviez demander à quelqu'un de garder quelque chose de précieux, quelque chose que vous tenez tellement comme la prunelle de vos yeux, qu'est-ce que vous lui diriez? Écoute, garde ça, fais attention de ne pas le briser. Écoute, je te le donne parce que je te fais confiance. Vous lui diriez, écoute, garde ça comme si c'était la prunelle de tes yeux, parce que vous tenez beaucoup à cette chose. Frères et sœurs, quand vous tenez beaucoup au commandement de Dieu, au commandement du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils sont précieux à vos yeux, vous gardez les commandements. Dans les temps anciens, le mot « garder » était un mot qui était utilisé par les marins. À cette époque, il n'y avait pas de GPS et les marins s'orientaient en suivant les étoiles. La nuit, le matelot de garde fixait ses yeux sur les étoiles. Il suivait sa route en fonction du positionnement des étoiles. On appelait ça « garder ses yeux fixés sur les étoiles ». En tant que chrétiens, nous dirigeons notre vie en gardant les yeux fixés sur la parole de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas arriver dans un moment d'insouciance. Oui, ça peut nous arriver dans un moment d'insouciance, de détourner notre regard de la parole de Dieu. Mais si vous ne ressentez pas le désir, si vous ne ressentez aucun désir de vivre par la parole de Dieu. Si vous pouvez pécher sans avoir aucun remords, et ce, avec une facilité déconcertante, sans ressentir aucun scrupule, sans avoir aucune conviction de péché, et que vous vivez sans vous soucier de quoi que ce soit, vous avez alors besoin ce matin d'être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean qui le dit lorsqu'il écrit « Celui qui dit « Je l'ai connu, qui ne garde pas mes commandements. » Et quoi? Un menteur. Vous laissez-vous diriger par les étoiles de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est quelque chose qui n'a pas de prix pour vous, au point où vous vous appliquez à garder les commandements de Dieu? Évidemment que nous ne sommes pas sauvés en gardant les commandements. Jean n'enseigne pas ici le salut par les œuvres. Regardez ce qui est écrit encore une fois au verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu ». Chers amis, le verbe « connaître » souligne quelque chose qui a été fait dans le passé, quelque chose qui a été réglé dans le passé. Celui qui l'a connu, il dit « Garde sa parole » et il parle au temps présent. Celui qui a vraiment rencontré Jésus-Christ dans le passé, eh bien, aujourd'hui, garde sa parole et il va maintenir cette action dans le futur. Le verbe est au passé « connaître » et le verbe « garder » est au présent ici. J'ai rencontré Jésus-Christ, il a bouleversé ma vie, je garde sa parole. Et le mot « garder » ici, ça veut dire « obéir à sa parole ». Ce n'est pas de trouver toutes sortes d'excuses pourquoi je désobéis à sa parole. Je garde sa parole. Et quand je désobéis à sa parole, je reviens au pied du trône de la grâce de Dieu et je confesse mon péché. Parce que je sais qu'il est fidèle et juste pour me pardonner tout péché. Je sais aussi qu'il connaît mes faiblesses. Mais par contre, je sais aussi une chose, c'est qu'il ne permet qu'aucune épreuve ne survienne dans ma vie, qu'il soit au-delà de ma capacité de pouvoir résister. Et que cette épreuve qu'il me donne de traverser dans ma vie, il a déjà trouvé le moyen pour que je puisse m'en sortir. Parce que Dieu est avec nous au milieu des épreuves. Dieu est avec nous au milieu des combats. Dieu est là quand la tentation arrive. Et il veut nous rappeler des passages des Écritures. Tu peux tout par celui qui se fortifie, Jacques. Tu peux tout, Jacques. Mais tu ne peux rien par tes propres forces. Amen. Jésus est en train de dire que parce que je l'ai connu, je garde maintenant ses commandements. Il ne dit pas parce que je garde ses commandements, je le connais. C'est très important, ça. Il ne dit pas parce que je garde ses commandements, je le connais. Parce que je le connais, je garde ses commandements. Parce que la seule manière pour garder ses commandements, c'est de le connaître. Et si vous le connaissez, s'il habite dans votre cœur ce matin, si vous l'avez connu dans le passé, vous êtes maintenant en train de garder ses commandements. Amen. Au temps présent, pardon... Vous vous laissez diriger par la parole de Dieu et vous l'appréciez parce qu'elle est un trésor à vos yeux. Frères et sœurs, ce matin, peu importe le nombre d'années que vous avez professé le nom de Jésus-Christ, est-ce que la parole de Dieu est un trésor dans votre vie? Posez-vous maintenant cette question et répondez-y honnêtement. Avez-vous dans votre cœur, au moment où on se parle, un désir de vivre de la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, mettez un grand point d'interrogation sur ce que vous appelez salut. Parce que celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et c'est ce que Jean dit ici. Quel est donc le premier signe extérieur que quelqu'un est né de nouveau? Jean le dit dans le passage ici, un chrétien né de nouveau se soumet à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ce n'est plus lui qui dirige sa vie, c'est Christ qui dirige sa vie. Non plus en fonction de ses propres valeurs, mais en fonction des valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Christ, tu es non seulement mon Sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur. Il n'y a personne qui va rentrer au ciel simplement sur la base que Jésus-Christ est son Sauveur. Ça prend les deux. Sauveur pour salut, Seigneur pour sanctification. Ça prend les deux. Voilà pourquoi on ne doit pas prêcher l'Évangile comme étant quelque chose qui est facile à accepter. Vous auriez dû voir dimanche, lors de l'appel, il y a eu 3 personnes qui ont levé la main, lors de l'appel, des gens qui pleuraient. Je voyais les gens pleurer, mais le combat. Il y avait une personne dans l'assistance qui a refusé de lever la main parce qu'elle aurait dû abandonner son travail. Parce que c'est quelqu'un qui engage, c'est quelqu'un qui paye des gens noirs. Et il savait le prix qu'il avait à payer. Il le sait. Le Saint-Esprit l'a convaincu. J'ai rencontré cet homme. Il m'a dit, ouf, le prix. Ouais. Alors j'ai dit, écoute, n'accepte pas Jésus simplement dans le but d'être sauvé si tu ne veux pas changer tes habitudes de vie. Parce que tu vas te leurrer et tu es sur le chemin de l'enfer, mon ami. Il y a un prix à payer. Oui, c'est d'abandonner notre ancienne vie. Sans la sanctification, nul ne verra le royaume de Dieu. Nous dit l'Épître. Nous dit, nul ne verra le Seigneur, plutôt bon. Dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Un chrétien né de nouveau se soumet à la Seigneurie de Christ. Il plonge son regard dans la parole et il dit, voilà dorénavant ce qui dirigera ma vie. Et je vais m'appliquer à faire sa volonté. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de votre vie, alors vous n'êtes pas sur le chemin qui mène au ciel, frères et sœurs, chers amis. Ce n'est pas faire preuve de légalisme ici, mais d'amour. Et si je vous parle ainsi ce matin, c'est parce que je vous aime. Mon but, ce n'est pas de vous faire peur. Mon but, c'est que vous puissiez vous interroger. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'Église? Vous êtes peut-être tombé dans une routine spirituelle. Peut-être que vous avez accepté, oui, Jésus, mais est-ce que ça a changé vraiment quelque chose dans votre vie? Si ça n'a rien changé, vous vivez une religion. Et ça me fait mal au cœur de le dire ce matin. Et je vais vous dire pourquoi je vous le dis, parce que je vous aime et que j'ai à cœur votre âme. Et je ne suis pas ici pour commencer à dire quelque chose dans le but de savoir ce que vous allez penser de moi. Ce qui est important pour moi ce matin, c'est de dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce qui compte pour moi ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi je garde les commandements de Jésus? Parce que je l'aime. Permettez-moi de vous citer deux versets. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il dit dans Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous nourrissez vos enfants non seulement parce que la loi vous oblige à le faire, mais parce que vous les aimez. Nous gardons les commandements parce que nous les aimons. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le premier signe qu'une personne est née de nouveau, c'est qu'elle se soumet à la Seigneurie de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous donner le deuxième signe que quelqu'un est né de nouveau. Un chrétien né de nouveau cherche à vivre comme Jésus a vécu. Est-ce que c'est ton cas ce matin, toi qui es dans cette salle ce matin? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu vis comme Jésus a vécu? Jean dit dans les versets 5 et 6, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait. En lui, par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. » En français courant, c'est encore plus simple. « Celui qui dit appartenir à Jésus-Christ doit vivre comme Jésus a vécu. » Moi, je ne suis pas de l'école théologique qui dit qu'on n'est pas capable. Si je ne suis pas capable de vivre comme Jésus a vécu, c'est que Dieu est vraiment méchant, il a mis la barre extrêmement haute, et deuxièmement, c'est que son esprit n'habite pas en moi. Moi, je ne suis pas là pour trouver des excuses. Je suis surtout là pour me dire pourquoi je n'y arrive pas. Et là, je me dis, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est peut-être moi, genre, tu as peut-être un ménage à faire dans ta vie. Tu as peut-être des choses à remettre en question. Parce que mon frère Jacques, Jésus, va encore accomplir des miracles à travers toi aujourd'hui, comme il l'a fait il y a 2000 ans, comme il l'a fait tout au long de l'histoire de l'Église évangélique. Est-ce que tu as des choses à abandonner dans ta vie pour que Dieu manifeste sa gloire à travers toi ce matin, mon frère, ma sœur? Parce que Jésus a promis qu'il voulait manifester sa gloire à travers ses enfants. Hier, aujourd'hui et demain. Jean ne parle pas ici de la Seigneurie de Christ, mais de sa manière de vivre. Lorsque vous vous soumettez à la Seigneurie de Christ et que vous cherchez à l'imiter, eh bien, vous marcherez comme Jésus lui-même a marché. Chers amis, si le fait d'être sauvé ne fait pas de nous des gens qui ressemblons à Jésus-Christ, alors le fait de ne pas ressembler à Jésus démontre que nous ne sommes pas sauvés. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Et l'Église aujourd'hui ne veut pas payer le prix que les premiers chrétiens de l'Église primitive ont voulu payer. Être sauvé vous amène à ressembler à Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit. Écoutez, posez-vous la question honnêtement, pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit? Simplement pour nous convaincre qu'on est un enfant de Dieu, non? L'Esprit que Dieu nous donne, frères et sœurs, quand on passe par la nouvelle naissance, c'est le même Esprit qui habitait dans le cœur de Jésus, 100% homme, et qui lui permettait de manifester la gloire de Dieu sur la terre au milieu de tous les hommes. Et ce même Esprit, Dieu veut l'utiliser en vous ce matin, parce que vous êtes des enfants de Dieu, parce que vous êtes des héritiers célestes. Dieu veut utiliser cet Esprit pour manifester sa gloire à travers vous. Jésus a payé le prix en tant qu'homme, il a payé le prix incroyable. Il n'a jamais péché. Bon, on peut dire qu'il était Dieu, il ne pouvait pas pécher, mais on va essayer d'aller chercher un équilibre. Dans son 100% homme, le diable a mis toute la gomme pour qu'il tombe, hein, pour diviser la Trinité pour l'éternité. Là, il n'y avait plus d'espoir pour nous. Mais le même esprit qui habitait dans Jésus, c'est l'esprit qui habite en nous ce matin, pour ceux qui sont nés de nouveau. Tournez maintenant dans Jean, 1 Jean, 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 17. Dans la première partie de ce verset, Jean écrit, tel qu'il est, tels que nous sommes, tels nous sommes aussi dans ce monde, frères et sœurs. Jean, il dit, écoute, tel était Jésus, tel tu es censé être. C'est ce qu'il est en train de dire, hein? Moi, je n'invente rien ce matin. Hein? Jésus était comme ça, bien, ce n'est pas de problème, tu es censé être comme lui. C'est ce qu'il dit, hein? Moi, je n'invente rien. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Est-ce que vous ressemblez à Jésus-Christ ce matin? Et si vous êtes conscient que vous ne lui ressemblez pas, est-ce que vous aspirez à lui ressembler pour qu'il manifeste sa gloire à travers vous et que vous n'ayez aucune crainte au jour du jugement? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean. Tel qu'il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. À quoi maintenant ressemblerait la façon de vivre de Jésus pour que je puisse marcher, pour que je puisse l'imiter ou marcher comme lui a vécu? Il a vécu une vie caractérisée par l'honnêteté. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, tel qu'il est, tel nous sommes. Si nous marchons comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Sanctification. Qu'est-ce que cela signifie, marcher dans la lumière? Cela signifie être honnête. Regardez ce que Jean écrit ici. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne disons pas et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Quel est donc le style de vie de Jésus? Une vie d'honnêteté. Je suis honnête avec Dieu, je suis honnête avec moi-même et je suis honnête avec vous. Si vous vivez de façon malhonnête, vous ne marchez pas comme Jésus a marché et vous ne marchez pas dans la lumière, frères et sœurs. Il n'y a pas de zone grise avec le Seigneur. C'est blanc ou c'est noir. Tu es pour moi ou tu es contre moi. S'il y a une idole dans ta vie, s'il y a un Dieu dans ta vie, si c'est l'argent qui est le commencement de tous les maux, viens pas crier sous tous les toits que je suis ton Dieu. Il y a quelque chose qui prend ma place. Tu ne peux pas être béni par moi. Dieu est un Dieu jaloux, il n'acceptera jamais que quoi que ce soit prenne sa place. On peut prier, on peut, je n'irai pas allumer des lampions, c'est pas nous ça, mais on peut prier. On peut demander à Dieu d'accomplir des miracles dans nos vies. Mais ce Dieu trois fois saint n'acceptera jamais que quelqu'un dans nos vies le tasse pour prendre la place qui lui revient. Jamais, jamais, jamais. Et Dieu ne répondra jamais à nos prières. Et je tiens à vous dire que Dieu répond même aux prières des païens. Et ce qui est triste, c'est qu'il ne répond pas à des prières des chrétiens. Corneille n'était pas né de nouveau. Et Pierre dit, Dieu a entendu ta prière, Corneille. Voilà pourquoi je suis ici. Frères et sœurs, en fonction de votre style de vie ce matin, avez-vous la certitude que Dieu entend vos prières? Parce que la promesse, elle est là. Hein? Demandez et vous recevrez. Demandez en mon nom maintenant et vous recevrez, dit Jésus. Il y a des raisons pour lesquelles on ne reçoit pas. Parce qu'on demande mal. Un verset nous dit parce qu'on demande mal. Et un autre pour des raisons purement égoïstes. Dieu répond uniquement aux prières qui servent à le glorifier. Pas à nous glorifier, mais à le glorifier, à manifester sa gloire. C'est la seule raison pourquoi Dieu répond à nos prières, pour manifester sa gloire. Non seulement il a vécu une vie d'honnêteté caractérisée par l'honnêteté, mais une vie qui était caractérisée par une vie de pureté. 1 Jean chapitre 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Tel il est, tel nous sommes, frères et sœurs. Honnête, pur. Remarquez bien ce que Jean dit ici. Comme lui-même est pur, il en est de même pour nous. Nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché. Ma vie doit refléter le style de vie de Jésus-Christ, frères et sœurs. Sa façon de vivre était une vie d'honnêteté et de pureté, et quiconque a cette espérance en lui, dit Jean, quiconque a cette espérance en lui, dit Jean, comme lui-même est pur, se purifie. Tel il est, tel vous êtes. Tel il est, tel je suis. Ce n'est pas mon évangile, je vous cite l'épître de Jean. Qu'on ne lit pas souvent, hein, parce qu'elle est... Elle est canon, hein, l'Évangile de Jean. Et il y a des chrétiens qui rejettent pas l'Évangile, l'Épître de Jean, parce qu'ils disent que ça avait d'abord été écrit pour les gnostiques, pas pour les chrétiens. Mais ben, mon œil, hein, les gnostiques, c'est des gens qui se disaient chrétiens, mais qui étaient complètement à côté de leur pompe. Hein. Des gens qui utilisaient, comme beaucoup aujourd'hui, la grâce comme licence pour pécher. On est sauvé, mais ah, je peux pécher, je suis sous la grâce. Ouais. Et ça, c'est une grâce qui nous conduit directement en enfer, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas la grâce que je connais. Le Seigneur n'a pas payé un prix pour qu'on puisse continuer à s'amuser et à baigner dans le péché comme on le faisait avant de le rencontrer, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas l'Évangile que je lis. Et ce n'est pas l'Évangile que je prêche non plus. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas succomber à la tentation, mais si votre manière de vivre... Écoutez bien ce que je vais dire là. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas tomber dans la tentation, succomber à la tentation. Mais si votre manière de vivre consiste à vivre dans le péché, vous ne marchez pas comme Jésus a marché. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, nous dit l'apôtre Jean. Et sa vie fut une vie de justice. Regardez, 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Encore une fois, comme lui-même est juste. Tel il est. Tels nous sommes aussi dans ce monde. Jésus a non seulement mené une vie marquée par l'honnêteté et par la pureté, mais il a vécu, frères et sœurs, dans la justice. Regardez 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est lui-même juste comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde, frères et sœurs. Que veut dire ici le mot justice? Le mot justice ne veut pas seulement dire s'abstenir à faire le mal, mais à faire le bien, c'est-à-dire s'efforcer de faire le bien. Il est écrit dans Actes chapitre 10, verset 38, que le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant le bien. Vous vous dites peut-être, comment puis-je vivre un style de vie qui correspond à ce que Jésus pratiquait? Eh bien... Jacques nous donnait, et on comprend pourquoi Jacques a écrit ceci dans son épître, c'est en faisant le bien. Jacques, vous savez ce qu'il dit? Celui qui sait faire le bien, il ne dit pas celui qui s'abstient du mal, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques, chapitre 4, verset 17. La grâce, c'est ça la grâce. Et pourquoi Dieu nous dit, écoute, fais pas le mal, mais si tu sais faire le bien que tu dois faire et que tu ne fais pas, tu commets un péché. Parce que justement, en Jésus-Christ, nous avons la capacité de dire non à toute forme de péché. Et quand nous disons oui, arrêtons de mettre la faute sur le diable. Au lieu de garder mes yeux là-dessus, je garde les yeux dehors et je suis attiré. Je suis attiré par l'extérieur. Je suis attiré par les lumières. Et quand je garde mes yeux dans la parole, je suis attiré à mener une vie comme Jésus l'a menée. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que c'est votre cas ce matin, frère? Et sans esprit de condamnation, si ce n'est pas votre cas ce matin, là où vous êtes, confessez votre péché au Seigneur et dites, Seigneur, il y a toujours des nouveaux départs avec toi. Seigneur, fais en sorte que mes pieds, fais en sorte que mes yeux, mes pieds marchent en nouveauté de vie avec toi. Et fais en sorte que mes yeux ne s'éloignent pas de ta parole pour que je puisse refléter celui qui vit en moi, la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a une campagne d'évangélisation qui va commencer la semaine prochaine. Les gens n'ont pas besoin d'être bombardés de versets. Les gens ont besoin de voir des gens, des personnes qui reflètent l'amour de Jésus-Christ, qui vivent comme Jésus a vécu, qui vont les rencontrer aux portes pour leur partager l'amour qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, qui vont partager aux portes que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié Jésus-Christ. La semaine passée, j'étais radical dans mon message. J'ai parlé beaucoup de l'enfer. Je vais vous poser une question ce matin. De quoi vous pensez que Jésus vous a sauvé? De quoi vous pensez que Jésus vous a sauvé? Il vous a sauvé d'un mot que l'Église n'utilise plus aujourd'hui. Il vous a sauvé de l'enfer, frères et sœurs. Parce que c'est là que vous étiez destinés, c'est là que j'étais destiné. Il vous a sauvé d'aller en enfer. Il vous a épargné la damnation éternelle. On dit aux gens, « Accepte Jésus, il va te sauver. » »« Il va me sauver de quoi? Hey. » Ouais. Il t'a sauvé de passer en jugement. Il t'a sauvé de te présenter devant Dieu en portant le fardeau, le poids de tous tes péchés et de te faire indiquer la porte de l'enfer pour l'éternité. C'est ça de quoi Jésus vous a sauvé et ce de quoi il m'a sauvé. Amen. Ouais. Je n'aurai pas le temps d'expliquer le mot « demeurer » ce matin. Mais le mot « demeurer » est un mot important à regarder. Quand je décide de me soumettre à la Seigneurie de Christ, comment est-il possible que je puisse chercher à vivre comme Jésus lui-même a vécu? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6. L'apôtre Jean mentionne un mot dans ce verset, et c'est le mot « demeurer ». Est-ce que vous voyez ce mot dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6? « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Jésus, frères et sœurs, était un maître pour enseigner. Lorsque nous cherchons à définir ce que veut dire le mot « demeurer », nous sommes quelquefois assez flous dans notre définition. Il y a une chose que Jésus savait très bien faire, et c'est la suivante. Prendre des mots, des phrases parfois difficiles à comprendre et les simplifier afin que tous ceux qui l'écoutaient puissent comprendre ce qu'il voulait ou ce qu'il venait de leur enseigner. Et le mot « demeurer », tournez avec moi dans Jean chapitre 15, verset 5. Je ne peux pas passer à côté, sinon vous risquez de perdre. Vous allez permettre que j'enlève ma cravate parce que j'ai l'impression d'avoir un nœud coulant autour du cou. Daniel, dans sa grâce, il me... Oui, merci. Si vous tournez dans Jean chapitre 15, verset 5, il explique ce que veut dire le mot « demeurer ». Il prend l'exemple d'une vigne et de ses branches. « Je suis la vigne, dit Jésus, et vous êtes les branches. Jésus est la vigne, vous êtes ses branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je porte beaucoup de fruits, ça me fait tout de suite référence aux fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, ce sont tous les fruits que Jésus portait. Et celui qui demeure... accroché après la vigne, c'est celui qui va produire, qui va porter les fruits que la vigne lui donne, parce qu'il est rattaché à la vigne, il va porter les fruits de l'Esprit. C'est ce qu'il va dégager. Nous comprenons maintenant ce que veut dire le mot « demeurer » signifie être lié ou avoir une relation avec Jésus-Christ. Il est la branche principale d'où sortent toutes les branches qui sont nourries par lui. « Je suis la vigne, vous êtes les branches », dit Jésus. Imaginez maintenant que vous êtes une branche et que Jésus est la vigne. Nous savons que la vie de la branche dépend entièrement de la vigne. Elle ne peut pas vivre sans la vigne. Et elle ne peut pas grandir si elle ne reçoit pas sa nourriture de la vigne. Un chrétien ne peut pas grandir s'il ne reçoit pas sa nourriture. Comme le frère Ernest nous l'a dit tantôt, il ne peut pas grandir, il ne peut pas progresser s'il ne se nourrit pas à la vigne céleste qui est la sainte parole de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux et à d'autres endroits, eh bien, les auteurs sont étonnés de voir que certains chrétiens qui ont rencontré le Seigneur depuis des années sont encore à être nourris à la tétine, à la bouteille et à la tétine. Il dit, je suis encore obligé de revenir au lait, au salut, au baptême, et ainsi de suite. La branche ne peut rien faire par elle-même. Tout ce que la branche a besoin, c'est de la vigne. Tout ce que le chrétien a besoin, c'est de Jésus-Christ. Sa vie en dépend si elle veut porter du fruit. Eh bien, la branche, il est fondamental qu'elle reçoive sa nourriture de la vigne. Pendant l'été, si elle a besoin d'humidité, la vigne va lui fournir l'humidité dont elle a besoin. À l'automne, lorsque c'est le temps de récolter les raisins, ou au printemps, lorsque c'est le temps de préparer les branches pour qu'elles produisent du raisin, les petites branches ne s'inquiètent pas combien de raisins, quelle taille, quelle couleur, ni quel goût les raisins auront. Ça, ce n'est pas le problème des branches. Tout ce qui est demandé à la branche, c'est de demeurer connecté, relié, attaché à la vigne. Parce que voyez-vous, ce n'est pas les branches qui donnent le raisin, frères et sœurs. Les branches ne font que porter les raisins. Tout ce que la branche fait, c'est de faire confiance à la vigne. Parce que durant toute sa vie, si elle veut vivre et produire du fruit, elle doit renoncer à produire du fruit par elle-même, parce que c'est impossible. Et s'abandonner entièrement à la vigne pour que du fruit sorte d'elle. C'est une vie de dépendance et de renoncement à soi-même. Les gens ne comprenaient pas la façon de vivre de Jésus. Ils dirent à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » Il va leur dire, le Fils ne peut rien faire par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Frères et sœurs, il en est de même avec nous. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas connecté à Jésus-Christ, on ne peut pas produire du fruit. Il est impossible de produire du fruit, parce que le fruit ne vient pas de nous, il vient de celui qui est la vigne, nous sommes des branches. Et en tant que chrétiens, si on compare avec Israël, nous sommes des branches qui ont été greffées après la vigne. Que veut dire alors le mot « demeurer » pour le chrétien? Il signifie une dépendance absolue en Jésus-Christ et un renoncement total à soi-même. Une branche n'a pas d'autre solution si elle veut porter du fruit que celle de dépendre entièrement de la vigne. Elle se repose sur la vigne et la vie de la vigne coule en lui. Il y a un beau verset dans l'Ancien Testament qui résume bien tout cela. C'est dans le psaume 37, versets 4 et 5. « Fais de l'Éternel tes délices. » Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Amen. Ouais. Chers amis, si vous voulez manifester la façon de vivre de Jésus-Christ, vous devez demeurer en lui. Et lorsque vous demeurez en lui, lorsque votre cœur lui appartient parfaitement à ce que Jésus était pour le Père, Jésus sera pour vous ce que le Père était pour Jésus. Vous devez simplement demeurer en lui. Rappelez-vous ce que l'apôtre Jean dit ici. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il doit y avoir une soumission à la Seigneurie de Christ. Il doit y avoir une recherche à vivre comme Jésus a vécu. Celui qui dit « Demeurez en moi » doit marcher aussi comme moi-même j'ai marché, dit Jésus. Vous marchez comme il a marché parce que vous demeurez en lui. Voici maintenant la troisième et dernier signe. Que quelqu'un est né de nouveau va manifester extérieurement. Le premier, c'est la soumission au Seigneur. Le deuxième, c'est chercher à vivre comme lui-même a vécu. Et le troisième, frères et sœurs, c'est de manifester l'amour de Jésus-Christ. C'est les trois signes extérieurs. Il m'est impossible de dire que j'ai rencontré Jésus-Christ si je déteste mon frère. Jésus-Christ avait toutes les raisons de nous haïr, de nous détester. Jésus-Christ avait toutes les raisons de détourner le regard de nous. Et il nous a aimés jusqu'à la fin. Le troisième signe extérieur de la nouvelle naissance, c'est l'amour. C'est manifester l'amour de Jésus. Regardez les versets 9 et 10 rapidement. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Voilà le troisième signe extérieur de celui qui est né de nouveau. Vous partagez simplement l'amour que vous avez reçu de Jésus-Christ. Remarquez que cet amour est ancien et en même temps il est nouveau. Pourquoi est-il ancien et nouveau en même temps? Il est ancien parce que Jésus a dit ceci. L'amour est le premier et le plus grand des commandements. Matthieu chapitre 22, verset 36. Mais pourquoi aussi est-il nouveau? Eh bien, parce que Jésus le dit lui-même dans Jean chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Frères et sœurs, pourquoi c'est important la nouvelle naissance? Lorsque Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi aussi je vous ai aimé. » L'amour que je vous ai manifesté ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. Et pour manifester l'amour que Jésus nous a manifesté, on doit naître d'en haut. Le problème, il est là. C'est que les gens ne sont pas nés de nouveau, ils essaient de manifester l'amour de Jésus. C'est un amour qui est charnel parce qu'il vient d'en bas. Quand Jésus parle de l'amour ici, c'est à l'amour que vous aurez, que tous sauront que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous avez reçu d'en haut. Mais pas l'amour que vous définissez. Hé, l'amour agapé vient d'où? Hein? Ah oui, hein? Ah oui? Et quand on vit dans la religion, on essaie de manifester cet amour-là, mais c'est impossible, on transpire, on sue, on n'y arrive pas, et on se décourage. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, parce qu'on est né de nouveau, nous permet de manifester cet amour. Frères et sœurs, quand j'étais dans le monde, je ne me laissais pas marcher sur les pieds. Jamais, jamais. Hein? On m'avait toujours éduqué. Frappe le premier avant de te faire frapper. Hein? Toujours. Aujourd'hui, je suis insulté. On se moque de moi. On parle en mal de moi. Et je trouve le moyen en prière de demander au Seigneur de les bénir. Parce qu'ils sont perdus. Et frères et sœurs, ça, ce n'est pas l'amour qui habite, qui est l'amour humain. C'est l'amour qui vient de Dieu. Même moi, je ne comprends pas que je puisse prier, avoir la capacité de prier ainsi. De demander au Seigneur de bénir mes ennemis, mais c'est ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il demande. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'est comme ça que vous allez aller les chercher. Oui. Pas parce que c'est écrit dans le dos, dans un t-shirt, « Je suis chrétien ». Ici, doit sortir... doit transpirer le fait que je suis chrétien né de nouveau. Chers amis, vous qui êtes dans cette salle ce matin, avez-vous la certitude que vous êtes né de nouveau? Je vous ai donné trois signes ce matin extérieurs. Est-ce que ce sont trois signes que vous manifestez au quotidien dans votre vie? Parce qu'alors, vous n'êtes pas sur le chemin qui vous conduit au ciel. Et à travers ce message, ce matin, à travers ces passages, Dieu vous amène à réfléchir. Et vous savez qu'ils sont ceux qui sont les plus difficiles à réfléchir dans cette salle ce matin? Ce n'est pas ceux qui sont ici pour la première, deuxième, troisième, quatrième fois. Ce ne sont pas ceux qui sont familiers avec l'Église, qui ne sont pas familiers avec l'Église. Ce sont ceux qui fréquentent l'Église année après année, semaine après semaine. Et qui n'entendent plus, qui entendent l'Évangile, mais qui n'écoutent plus. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Et c'est à vous que je parle. Et vous n'écoutez pas parce que vous pensez que vous êtes sauvés. Et vous ne l'êtes pas. Et vous crachez sur ce publicain. Vous portez un regard hautain sur quelqu'un qui rentre dans l'Église pour une première fois, pour une deuxième, pour une troisième. Qui n'est pas habillé comme vous, qui n'a pas cette connaissance des Évangiles comme vous. Mais lui vient dans un esprit d'humilité. Lui vient pour entendre. Lui vient pour écouter. Parce qu'il sait qu'il est perdu. Alors que vous, maintenant, vous vivez pour les apparences. Chers amis, en terminant, permettez-moi de vous dire quelque chose. Le Seigneur ne nous aime pas parce que nous avons fait quelque chose de bien ou parce que nous sommes aimables. Non. C'est parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu comptes beaucoup pour moi et que je t'aime. Ésaïe 43, 4. Parce que tu as une valeur inestimable à mes yeux, parce que tu comptes pour moi et parce que je t'aime, dit Dieu. Voilà pourquoi je t'ai donné la solution d'être sauvé. De la direction dans laquelle te mène ton péché. Maintenant, tu peux regarder avec confiance vers le ciel. Regardez autour de vous dans cette salle. Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment charmant au point de faire pencher le cœur de Dieu en votre faveur? Non, Dieu vous aime. Point, c'est tout. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Parce que je t'aime. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi il y a un chrétien né de nouveau qui t'a prêché l'Évangile? Pourquoi? La grâce. La grâce. Pourquoi il y a des gens en Belgique qui entendent l'Évangile semaine après semaine qui ne se convertissent pas? Alors qu'il y a des gens en Afrique qui n'ont jamais entendu une seule fois l'Évangile. Pourquoi? Dieu les aime autant que vous et moi. Pourquoi? Parce que l'Église ne joue pas son rôle. Il y a des missionnaires dans cette salle. S'il y a des gens qui sont appelés à la mission ici, et qui s'assoient encore sur leur confort, qui ne veulent pas payer le prix, qui ne veulent pas tout mettre de côté, abandonner tout pour partir en mission. Pour dépenser 2000, 3000 euros par année pour aller en vacances, faire dorer la bédaine sur le bord de la mer, on est capable. Et pour soutenir les missionnaires, soutenir les gens qui sont là-bas au risque de leur vie, combien on est prêt à donner par année? Vous engrangez combien d'argent au ciel que Dieu, quand il va ouvrir les portes, va vous montrer, voici ce que tu as accumulé, voici ce que tu reçois, voici ce que je te donne. Frères et sœurs, comment je peux affirmer que je le connais si je dis que j'aime Dieu, que j'haïsse mon frère? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'apôtre Jean dit, si quelqu'un affirme « je le connais » mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en haïssant son frère se trouve encore dans l'obscurité. Quels sont les signes de la nouvelle naissance? On se soumet premièrement à la Seigneurie de Dieu. Nous cherchons à vivre comme lui-même a vécu et nous partageons son amour. Et nous partageons son amour. Ouais. Êtes-vous capable ce matin, quand vous avez rencontré quelqu'un, de dire, écoute, j'aimerais te partager, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé comme jamais personne ne m'a aimé, et j'aimerais te partager. Mais te partager jusqu'à quel point il m'a aimé. Ouais. Il y a combien de gens ici qui lèveraient leurs mains dans la salle? Pas parce qu'ils seraient prêts à mourir pour un frère ou une sœur. Il y a combien de gens dans cette salle ici qui seraient prêts à mourir pour un pédophile, qui serait prêt à mourir pour aller prêcher l'Évangile à un pédophile, qui serait prêt à aller prêcher l'Évangile, à risquer leur vie pour aller prêcher l'Évangile à une soeur en Syrie. Combien il y en a ici dans cette salle qui seraient prêts à donner leur vie pour aller prêcher l'Évangile à quelqu'un qui a violé et tué des dizaines et des dizaines de femmes? Combien? Est-ce que vous pensez que votre péché est moins important que ce que je viens de dire? Jésus a pris le risque, il a accepté, non seulement il a pris le risque, mais il a accepté de mourir pour des pécheurs comme vous et moi. Frères et sœurs, si quelqu'un est sauvé, il va le manifester dans sa vie de tous les jours. Vous n'êtes pas sauvé en gardant les commandements. Vous n'êtes pas sauvé en marchant comme Jésus a marché. Vous n'êtes pas sauvé en aimant votre frère et sœur. Mais si vous êtes sauvé, vous allez pratiquer toutes ces choses. Ce sont des choses qui se manifestent dans votre vie lorsque vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et si votre religion n'a pas changé votre vie, vous êtes mieux de changer de religion parce que vous n'avez pas celle du Nouveau Testament qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Béni Seigneur que vous n'ayez jamais rencontré l'ancien Jean Cudon, vous l'auriez détesté. Vous m'auriez peut-être tiré une balle. Et je suis content qu'il soit mort il y a 30 ans, ce vieux Jean Cudon. Et je suis content de venir devant vous ce matin et vous dire, voici le jeune, le nouveau. Oui, jeune, 30 ans, c'est pas vieux. Jeune Jean Cudon. Et le Seigneur, dans sa patience, il continue à le travailler. Et quand je tombe, il est là pour me relever. C'est la même chose pour vous. Et frères et sœurs, je sais ce que vous disiez, je sais comment vous vivez ça ce matin. Quand j'ai dû tout abandonner au Québec, la maison, la piscine, les voitures, tout, je dois vous dire que ça n'a pas été facile. Ça m'a pris quelques semaines avant de dire, est-ce que je dois payer, est-ce que je veux payer le prix? Et quand j'ai regardé, j'ai séparé une feuille à 4 en 2, et j'ai marqué sur un côté, les pour, pourquoi je devrais partir, et les pourquoi je devrais rester. Quand j'ai marqué la liste de pourquoi je devais rester, c'était tous des raisons égoïstes. Ah, je vais perdre mes amis. Ah oui, mais chaque dimanche, on allait manger là, on passait toute l'après-midi là avec des frères et sœurs chrétiens. Ah oui, ma piscine, je vais m'en aller, je vais-tu avoir une piscine? Vais-tu avoir une voiture? Hey, j'ai une maison, est-ce que je vais me retrouver en appartement? Est-ce que je vais me retrouver dans une hutte? Frères et sœurs, le combat, là, il est là. Il est là. Ouais. Ouais. Tu peux être capable de manger au Pizza Hut, au McDo, au Land Garden, puis toutes ces places-là. Parce qu'il y a des pays qui n'en ont pas encore. Il y a des pays, ils n'ont même pas de fourchette, vous devriez manger avec votre main. Frères et sœurs, Dieu vous appelle à être des missionnaires, si ce n'est pas à l'extérieur, dans votre pays, dans votre quartier. Et il y a une semaine qui s'ouvre d'évangélisation. Vous ne pouvez pas venir toute la semaine aller trouver Michael. Je pouvais être là une journée, donner nuit une journée. Vous pouvez être là un après-midi, donner lui l'après-midi. Et je peux vous dire une chose, Dieu va vous honorer, frères et sœurs. Dieu va vous bénir. Dieu ne perdra pas votre nom à cause de vous, ça c'est clair et net. Et Dieu ne sera jamais en dette envers quelqu'un qui se lève pour proclamer l'évangile merveilleux de Jésus-Christ. Vous êtes tous appelés à être non seulement des serviteurs, mais des missionnaires et partager l'amour que Dieu a manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Levez-vous, levez-vous, osez, et c'est pas facile, mais osez, osez, et Dieu va vous bénir, vous allez voir des miracles. Dieu va accomplir des miracles à travers vous. Avez-vous une certitude encore aujourd'hui que Dieu veut vous utiliser pour sa gloire et qu'il va encore accomplir des miracles dans vos vies? William Booth, et je termine avec ça, disait ceci, et c'est ce qui a fait un grand réveil en Angleterre au 18e, 19e siècle. Les promesses de Dieu sont certaines. Il suffit d'y croire. Les promesses de Dieu sont certaines. Il suffit d'y croire. Le juste vivra par la foi et pour la foi. Vous ne convertirez jamais personne. Dieu convertit à travers vous. Vous allez peut-être être insulté. Les disciples ont dit, on se réjouit d'avoir été insulté pour le beau nom de Jésus-Christ. Si vous êtes insulté, persécuté pour le beau nom de Jésus-Christ, vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur ce chemin étroit. C'est un signe extérieur. C'est une promesse de la parole en plus. Jésus l'a dit, celui qui voudra me servir, il arrivera ci, ça, ça, ça. Et aussi des persécutions. Amen. Dieu vous... Je vais reprendre l'essence et je termine avec ça. Dieu veut vous utiliser, frères et sœurs. J'espère que vous en avez la certitude ce matin. Dans vos familles, dans le monde, dans votre quartier, Dieu veut vous utiliser. Si envers vos enfants, vous avez été un mauvais témoignage, allez les trouver. Si vous êtes nés de nouveau, je pense que vous ne serez pas gênés. Allez les trouver et dire, écoute, maman et papa te demandent pardon parce qu'on se dit chrétien. Mais on était complètement à côté de nos pompes pendant un certain temps. On n'a pas été ce témoignage qui reflétait la personne de Jésus-Christ. Allez les trouver. Allez les trouver. Et là, ils vont dire, « Bien, maman et papa, il y a quelque chose qui vivent que je n'ai jamais connu avant ou que ça fait longtemps que je n'ai pas connu. » Et vous allez les attirer à nouveau vers la croix de Jésus-Christ. C'est important qu'on puisse le faire. Amen. OK, on n'a pas de... Vous avez choisi un chant, mais vu qu'on n'a pas d'organiste, on va chanter quelque chose de très, très court. On va chanter « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. » Pendant qu'on va chanter ce cantique, j'inviterai les préposés aux offrandes à passer parmi vous. Alors moi, je n'ai pas la voix, par contre, de Jean-François. Jean-François, viens nous aider en avant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit encore une fois, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. On va se rassembler là, vers le milieu en se prenant la main. Demain, t'assuré entre tes mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, il sait qu'il vit. Et un dernier, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez à Jérémie, toujours plus comme toi. Est-ce que Samuel, tu as besoin du numéro? OK. Merveilleux. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Il sait qu'il vit. Et c'est mon espoir suprême. Pensez à agir, aimer, toujours plus comme